Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver en compagnie de Mathieu à la technique pour cette heure que nous allons consacrer à de la musique sacrée. Et donc j'ai choisi de vous parler d'un compositeur assez peu connu, qui est pourtant me semble-t-il très intéressant, et qui s'appelle Johann Nepomuk Hummel, ou Hummel si vous le prononcez à la française. En deux mots, c'est un compositeur du début du 19e siècle, qui est un contemporain de Beethoven et qui a surtout la particularité d'avoir été lui aussi un enfant prodige et un des très rares élèves de Mozart. De sorte que Hummel fait vraiment la liaison entre le 18e et le 19e siècle et il est vraiment très intéressant. Il fait partie de ce que j'appelle moi cette génération sacrifiée de compositeurs. C'est sûr que quand on est contemporain de Beethoven et qu'on succède à Mozart avant les grandes 1830, ben, on n'existe pas. Et pourtant, il a une très très belle production à la fois de symphonies, de concertos et de pièces religieuses. Pourquoi des pièces religieuses ? Parce que tout simplement, il va rentrer au service d'une très grande famille qu'on appelle les Esterházy, que Haydn connaissait. Et c'est justement le vieux Joseph Haydn qui, en 1804, parce qu'il est vraiment très fatigué, parce qu'il a servi pendant plus de 30 ans la même famille, il va aller voir son employeur, le prince Esterházy, il va lui dire « Écoutez, prince, moi, je suis trop fatigué maintenant, je préfère arrêter, mais je vous connais un successeur. » Et c'est donc Joseph Haydn qui va introduire à la cour, parce que c'est véritablement une cour princière, ce jeune compositeur Hummel, qui va donc rentrer au service de la famille Esterházy. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je vous propose de commencer donc la découverte des productions de musique sacrée de Hummel avec un très beau Te Deum. Le Te Deum, c'est quoi ? C'est une pièce où on rend gloire à Dieu, on le remercie pour ses bienfaits. Et c'est une prière qui est très ancienne, puisqu'on la renvoie à saint Ambroise, un des docteurs de l'Église, et que donc on loue, on glorifie, on remercie le Seigneur ou Dieu pour l'aide qu'il a apportée. Alors, ces Te Deum, ils peuvent être écrits soit, c'était le plus souvent au XVIe et XVIIe siècle, pour des faits de guerre. Quand un roi a fait une belle victoire, eh bien, on va tout de suite entonner un Te Deum, mais après, on peut le faire dans d'autres circonstances. Je rappelle d'ailleurs au passage que Charles de Gaulle, en 1946, est allé entendre un Te Deum à la cathédrale de Paris, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire à quel point cette cérémonie est très importante. Mais on rend grâce à Dieu aussi pour des anniversaires, des naissances d'enfants, des mariages, et c'est le cas de ce Te Deum que nous allons entendre, qui date vraisemblablement de 1806. Hummel est rentré 2 ans plus tôt au service de la famille Esterházy. Et dans la famille Esterházy, on va marier une jeune princesse. Alors donc, le prince va demander pour le mariage de sa fille à ce que son maître de chapelle lui écrive un Te Deum. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que cela va se passer. Et donc, Hummel va écrire une très très belle œuvre, vous allez l'entendre, qui fait appel, là encore, à une belle masse chorale et un bel orchestre. Je vous l'ai dit, la famille Esterházy est une riche famille austro-hongroise, et donc il y a des moyens colossaux, même si hélas le prince ne s'intéresse pas beaucoup à la musique, il a, comme on dit, les moyens d'avoir une très belle chapelle, et c'est ce que va donc utiliser Johann Nepomuk Hummel. Donc je vous propose d'écouter dans son intégralité ce fameux Te Deum, où encore une fois, il n'est question que de rendre gloire au Seigneur, de le glorifier, de le remercier pour tout ce qu'il a fait de bien.
Oh,
la fin et l'intégralité, en fait, de ce très beau Tédéum, je vous le rappelle, composé par Johann Nepomuk Hummel, interprété ici par l'orchestre de la Nouvelle-Zélande ainsi que les chœurs Tower, le tout placé sous la direction de Uwe Grodd, une œuvre tout à fait intéressante qui nous montre à quel point Haydn, en quelque sorte, avait eu raison de conseiller au prince Esterhazy d'engager ce jeune compositeur qui, je le rappelle quand même, avait été l'élève de Mozart. Revenons maintenant à cette œuvre pour simplement rappeler qu'elle a été signée en fait au moment du mariage de la fille du prince Esterhazy, mais c'était à l'occasion de la paix de Presbourg. Alors Presbourg, aujourd'hui, on ne connaît plus. On pourrait dire que c'est Bratislava. C'est une très belle ville, mais c'est là où, après Austerlitz, que voulez-vous, les Autrichiens, ils ont été obligés de signer un accord de paix avec Napoléon. Et c'est pour fêter, finalement, cette grande paix, cet accord de Bratislava ou de Presbourg, qu'a été commandé par le prince ce magnifique Te Deum. Et c'est encore le prince Esterhazy, Nicolas II, qui va commander à son jeune maître de chapelle maintenant une messe solennelle que nous allons entendre, qui a été faite pour le mariage de sa fille, la princesse qui s'appelait Marie-Léopoldine Josepha Ailosia Esterhazy von Galanta, pour aller jusqu'au bout du mont, et qui épousait le jeune prince Joseph Johann Moritz von Liechtenstein. Autrement dit, c'était une très très belle alliance, deux très grandes familles qui s'unissaient, et à l'occasion du mariage en 1808, Nepomuk Hummel a dû écrire cette très belle messe solennelle, ce qui explique aussi le côté, là encore, vous allez le voir, assez large, assez joyeux, assez imposant, puisque nous sommes en présence d'une messe dite solennelle. Je vous rassure tout de suite, le texte de la messe, lui, est invariable, il ne changera pas. C'est pourquoi on dit solennelle, tout simplement parce que vous allez avoir un grand orchestre, vous allez avoir des solistes, et vous allez avoir une messe qui, dans son intégralité, dure assez longtemps. On n'aura pas l'occasion, nous, dans cette heure, d'entendre la totalité, mais on va écouter des extraits de cette très belle messe solennelle sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Mais je vous propose de commencer, bien évidemment, par ce très beau Kyrie qui nous met en situation de demander pardon à Dieu pour nos péchés afin de nous préparer finalement à cette communion qui se trouvera à la fin de cette messe. Donc tout de suite, je vous propose d'écouter le début, autrement dit le Kyrie, de cette messe solennelle en la majeure de Monsieur Johann Nepomuk Hummel.
Thank you.
très belle introduction, très beau kyrie donc de cette messe solennelle. Vous avez pu l'entendre, il y a des timbales, il y a des trompettes, c'est bien encore une fois pour montrer le côté solennel de cette messe qui, je le rappelle, était pour le mariage de la fille du prince Esterhazy. On reviendra sur la famille Esterhazy, mais je voudrais quand même vous rappeler quelques mots de ce compositeur qui est Johann Nepomuk Hummel. Il est né donc du coup en 1778 à Presbourg, donc l'ancienne, enfin plutôt aujourd'hui Bratislava. À l'époque, il faut bien savoir que Presbourg se trouvait en Hongrie, aujourd'hui c'est la capitale de la Slovaquie, mais c'est là où il va recevoir ses premières leçons de son papa. Et puis très vite, on va se rendre compte que le jeune Hummel est vraiment un enfant prodige. Alors la famille va déménager, va aller à Vienne, et là, j'allais dire, grande chance, énorme privilège. Johann Nepomuk Hummel, à 8 ans, va devenir l'élève de Mozart. Et Mozart est tellement admiratif de ce jeune garçon qui va le loger chez lui pendant 2 ans. C'est donc assez énorme parce qu'on connaît peu finalement de grands compositeurs élèves de Mozart, certainement que Hummel est le plus célèbre. Mais après, il va continuer, notre jeune Hummel. Grâce à Mozart, il va donner son premier concert, il a 9 ans, on est à Dresde, et là il va se faire remarquer par un autre compositeur qui s'appelle Joseph Haydn, excusez du peu. Haydn va trouver le jeune homme excellent, il va lui donner une guinée en récompense, et il va devenir aussi l'autre professeur de composition de Hummel, parce que Mozart n'a pas le temps de s'occuper véritablement de ce jeune homme, il est pris partout, et donc c'est Haydn qui va prendre le relais de Mozart. Mais ça n'empêchera pas notre Hummel de partir en Italie, d'avoir les leçons pour le piano de Clementi, parce que j'ai oublié de vous préciser que la grande carrière de Hummel, c'est beaucoup plus envers les concertos pour piano et orchestre, parce que c'est un très très bon pianiste, et il va également avoir les leçons de Salieri. Donc vous avez compris que tout le monde s'intéresse à ce jeune homme, et tout naturellement il rentrera, donc je vous l'ai dit, au service de la famille Esterhazy, parce que Haydn, trop vieux, cherche un successeur, et c'est justement le jeune Hummel qu'il choisira. Donc je vous propose d'écouter maintenant la fameuse Gloria, donc la suite où on se rend compte de la gloire de Dieu avant de communier, et vous allez voir là encore qu'on est dans le côté solennel avec une masse chorale assez importante. Je rappelle que la famille Esterhazy est très riche, donc elle a les moyens de se payer sa chapelle, c'est-à-dire ses chanteurs et son orchestre, et vous allez voir que c'est très beau. On retrouve donc là encore cette messe solennelle de Johann Nepomuk Hummel.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Gloria, extrait donc de cette messe solennelle de Johann Nepomuk Hummel. On retrouve le côté solennel, mais on retrouve le côté assez doux, assez heureux, assez serein, puisque je rappelle que c'est pour un mariage. Le mariage, donc, de la fille du prince Esterhazy. C'est ce qui donne ce côté qui est peut-être un peu moins martial que dans certaines messes solennelles, mais encore une fois, c'est une messe de mariage. Alors le papa, parlons-en quand même un peu de ce fameux prince Nicolas II Esterhazy, qui est né en 1765, mais qui va succéder à son père simplement en 1794, et qui va rester le seigneur et maître absolu de la famille et des possessions énormes de la famille Esterhazy jusqu'en 1833. Pour l'histoire aussi, rappelons eh bien que Hummel va avoir 26 ans lorsqu'il va rentrer au service du prince Esterhazy et qu'il le quittera quelques années plus tard, en 1811, parce qu'on va le dire vite, le prince Esterhazy, c'est quand même pas non plus quelqu'un de toujours très recommandable. Voilà un homme qui boit bien, qui a des maîtresses et qui s'occupe que de la chasse et des plaisirs, on va dire, terrestres, de sorte qu'hélas, la musique n'est pas son principal souci, contrairement à ses prédécesseurs. Je rappelle que Joseph Haydn va rester plus de 30 ans au service de cette même famille. Alors, il y aura des Nicolas I, il y aura des Paul, enfin bref, ils se succèdent vraiment les uns les autres, et Haydn aura été au service de 4 princes, dont celui-là. Et je pense aussi qu'Haydn était fatigué, mais qu'il en avait marre un petit peu des sautes d'humeur du prince Esterhazy, et qu'il l'a donc quitté. Quoi qu'il en soit, on va dire que Hummel va se plaire quand même dans le service de maître de chapelle, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, les Esterhazy sont extrêmement riches et ils ont un très bon orchestre avec d'excellents musiciens. Ce qui explique sans doute que dans le Sanctus que nous allons entendre de cette messe, il y a un très beau solo de violon, parce que, encore une fois, les violonistes, et notamment le premier violon de l'orchestre de sa grâce, comme on disait, le prince Esterhazy, était véritablement de grande qualité. Alors ça s'entend et on comprend, comme l'avait fait auparavant Haydn, on utilise les talents des musiciens dont on est le directeur, et je rappelle que ce sont des domestiques, tous ces musiciens-là. Il faut bien comprendre, même au XVIIIe siècle, que même Hummel est considéré comme un domestique. Alors, il a plus ou moins un rang important dans la domesticité, mais ça n'est pas autre chose. Le statut social d'un compositeur, même très célèbre comme Haydn, c'est avant tout d'être un domestique, ce que, bien sûr, réfutera Mozart, et par la suite, Beethoven. Mais pour l'instant, retournons à cette très belle messe de Johann Nepomuk Hummel. Je vous précise quand même que Hummel est le contemporain direct de Beethoven, qu'on a souvent dit que les deux hommes étaient des rivaux. En fait, ils étaient amis. Amis, mais par moments, ça n'empêche pas la compétition, notamment dans les concerts. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps d'entendre le credo de cette messe solennelle. On va passer directement au Sanctus, un Sanctus très court, mais vous allez voir, empreint d'une très très grande, pour moi, religiosité et véritablement d'une grâce. Alors, tout de suite, le Sanctus, extrait de la messe solennelle de Hummel.
Oh.
Voilà, je trouve, moi, ce Sanctus très beau avec ce quatuor vocal. Ici, on a retrouvé la soprano Patricia White, tandis que l'alto, c'était Zan McHenry White, le ténor Patrick Power, la basse David Griffiths, et je rappelle qu'on a entendu aussi au violon Monsieur Donald Armstrong. Placer l'orchestre sous la direction de Uwe Grode avec les Tower Voice de la Nouvelle-Zélande et l'Orchestre Symphonique de Nouvelle-Zélande. Ce qui est assez étonnant, je le dis quand même, c'est que ça a été enregistré pour la première fois en première mondiale en 2003. C'est un disque auquel je tiens beaucoup parce que, encore une fois, vous voyez, on fait des découvertes extraordinaires. Il a fallu quand même attendre 2003 pour qu'on enregistre enfin cette très belle messe solennelle de Johann Nepomuk Hummel. Alors Hummel, je vous l'ai dit, il a été au service du prince Esterhazy jusqu'en 1811, et puis après il va partir, parce qu'on l'appelle, de très nombreux concerts. Les œuvres, on va dire, qu'il a composées sont essentiellement des symphonies, des opéras, 22 opéras, j'en ai jamais entendu un seul, quelques concertos. Vous connaissez sans doute le concerto pour trompette et orchestre de Hummel, parce que c'est un des fleurons du répertoire pour la trompette, mais il y a aussi donc toutes ces messes qu'il a composées essentiellement lorsqu'il était au service du prince Esterhazy. Il va partir de la cour d'Esterhazy, notamment du fameux château de Eisenstein. Il va le quitter en 1811 et deux ans plus tard, il va épouser une chanteuse qui s'appelle Elisabeth Ruckel, avec laquelle il aura deux enfants qui vont devenir également aussi musiciens, mais on va dire qu'on va oublier les fils Hummel. À partir des années 1818 et jusqu'à sa mort en 1837, donc pendant près de 20 ans, eh bien, Hummel va s'installer à Weimar, qui est encore une fois une ville assez importante. Donc c'est véritablement à la fois un compositeur, mais un remarquable pianiste qui est entré dans l'histoire. On va dire un peu des spécialistes, parce que le grand public, encore une fois, ne le connaît pas. Je vous l'ai dit, c'est l'exact contemporain de Beethoven. Ben, c'est difficile d'exister à côté d'un géant. Et pourtant, Beethoven a véritablement estimé Hummel. Je vous l'ai dit, les partisans des uns et des autres les opposaient. En fait, les deux hommes s'estimaient réellement. Simplement, on le sait, le caractère de Beethoven était assez irascible, sans doute d'ailleurs à cause de sa surdité. Et donc, on va dire que Beethoven n'était pas toujours très sympathique avec ses collègues. Mais on sait en tout cas que Hummel avait une profonde affection pour Beethoven et il s'occupera, après la mort du compositeur, de ses papiers, etc. C'est pour vous montrer quand même qu'il y avait un lien. Hummel, lui, mourra, il aura 59 ans, alors qu'il était quand même reconnu comme un véritable compositeur du début du 19e siècle. Alors, je vous propose de terminer maintenant notre promenade à travers quelques œuvres sacrées de Johann Nepomuk Hummel avec la conclusion de cette messe. On va entendre ce très bel Agnus Dei. Hein, donc, on n'aura pas entendu dans la messe le Credo et le Benedictus. Je suis désolé, mais on ne pouvait pas tout entendre. On va terminer donc la messe avec ce magnifique Agnus Dei où, là encore, on retrouve à la fois un côté solennel, c'est le titre de la messe, et en même temps, un côté, j'allais dire, chaleureux, heureux, c'est normal puisque c'est une messe de mariage, la fille donc du prince Esterhazy qui fait un, comme on disait à l'époque, un beau mariage et par conséquent ça se fête. L'œuvre a été créée bien sûr au château de Eisenstein à l'occasion donc du mariage de la princesse Josefa Eilosia Esterhazy von Galanta. Tout de suite, on retrouve maintenant cette très belle conclusion avec l'Agnus Dei de la messe solennelle.
Thank you.
la conclusion de la messe solennelle de Johann Nepomuk Hummel. Il s'agissait bien sûr ici de l'Agnus Dei, interprétée, je vous le rappelle, par Patricia White, soprano, Zan McHenry White, alto, Patrick Power, ténor, David Griffiths, basse. Je rappelle que les chœurs étaient ceux de la Tower Voice de Nouvelle-Zélande et que l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande était placé sous la direction de Uwe Grode. Première mondiale simplement en 2003, de ce que je considère moi comme une très belle messe. Ça commence un peu comme du Haydn et du Mozart, ça finit presque comme du Beethoven, c'est normal, puisque je vous l'ai dit que Hummel est l'exact contemporain de Beethoven, mais qui a laissé une œuvre tout à fait importante, puisque je voudrais quand même rappeler qu'il y a plus de 450 œuvres qu'a laissé ce compositeur, dont 22 opéras, des messes, des concertos, et que pour moi, Hummel fait partie un peu de cette génération de musiciens sacrifiés, parce qu'ils se trouvent après les classiques que sont Haydn, Mozart. Ils sont avant tous les romantiques, Chopin, Liszt, etc., qui eux vont véritablement produire à partir de 1830. Bah, vous faites le calcul, entre 1800 et 1830, bah, y a Beethoven. Et c'est vrai que Beethoven va un peu cacher toute cette production de compositeurs qui sont tout à fait intéressants. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie à la fois de réentendre des œuvres de Hummel et puis de nous retrouver en compagnie de Mathieu sur Radio Fidélité. Je vous souhaite encore une excellente continuation. Merci.